Comment allez-vous ce matin? Un peu chaudement. On est en été, donc on va quand même pas se plaindre. La dernière fois que j'étais ici devant vous, j'ai partagé le message qui était ressembler à Jésus. Alors je vous regarde, est-ce que vous avez progresser dans cette ressemblance. Bon, moi, je ne peux pas répondre. C'est vous qui pouvez répondre pour vous-même, bien sûr. Ce matin, nous allons changer de... Excusez-moi, de thème. Tout d'abord, je peux aussi me permettre de commencer par vous poser une question. Qui parmi nous, ici, ce matin, aimerait traverser l'existence avec l'expérience permanente de constater que Dieu répond à nos prières par milliers. Moi, le premier. Excusez-moi, mais moi, le premier. Mais, il y a toujours des mais. Si nous sommes chrétiens depuis quelques années, nous devons reconnaître... Et si nous pouvons vivre de telles expériences, tant mieux. Mais il y a aussi des temps de nuit, des traversées de désert, des traversées de tunnels, des temps où Dieu fait silence et semble tellement, tellement, tellement loin, pour ne pas dire au perché. Et le cas échéant, alors, comment l'accueillir comme un chemin de vie et de croissance? Nous voudrions toujours vivre avec ce sentiment bienveillant de la présence de Dieu. Prier et constater que chaque prière a trouvé sa réponse et que Dieu a toujours exaucé. Mais si nous sommes chrétiens depuis un certain temps, nous devons reconnaître que les choses sont un peu plus compliquées que cela. Notre sentiment de la présence de Dieu est assez variable. Et si nous nous réjouissons parfois de voir une réponse évidente, nous devons aussi reconnaître que ce n'est pas toujours le cas. Et ce matin, je voudrais parler un peu de ces silences de Dieu. Le premier cas, voyons d'abord... quand Dieu répond. Alors, je vais commencer, bien sûr, par l'aspect positif du thème. Si nous souffrons parfois de l'absence de Dieu, si nous avons l'impression qu'il se cache, ça veut dire aussi que nous avons aussi conscience de sa présence. Non seulement nous la connaissons par la foi, mais il peut nous arriver de la ressentir. Par exemple, lorsque l'on découvre la foi, nous découvrons l'existence de Dieu, et souvent, enfin, cela dépend des personnes, Dieu nous fait sentir qu'il est là, à nos côtés, qu'il nous porte dans ses mains, et même qu'il est en nous par son esprit. Pour certains, c'est une évidence. Pour d'autres, c'est quelque chose d'un peu plus vague ou irrégulier. Pour certains, donc, c'est quelque chose qui est naturel même. En fait, parfois je dis que vivre le surnaturel, spirituellement parlant, pour le chrétien devrait être naturel. Je pense que c'est ce que voulait aussi dire un certain Clermontois célèbre, Blaise Pascal. Il a dit ceci, c'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Voilà ce qu'est la foi. Dieu sensible au cœur, non à la raison. Il y a beaucoup de témoignages qui parlent d'un Dieu qui répond à la prière. Et nous trouvons cela bien sûr dans la Bible. Dans l'évangile de Matthieu chapitre 7, verset 7, nous lisons, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et puis un peu plus loin, au chapitre 17, verset 20, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, c'est-à-dire un grain de moutarde, c'est pas gros un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, elle se transporterait, rien ne vous sera impossible. Alors là, on est impressionné. Rien ne nous sera impossible. Et nous pouvons trouver beaucoup d'autres textes, des textes de la Bible, mais c'est aussi l'expérience de beaucoup de chrétiens. J'ai entendu des témoignages de personnes qui ont prié, qui ont été exaucées. Moi-même, j'ai été témoin de miracles physiques. Nous-mêmes, avec Chantal, nous avons vécu des réponses à des prières. Et c'est quelque chose vraiment d'enthousiasmant. Maintenant, on ne vit pas ça 24 heures sur 24. Il faut être honnête. Le deuxième cas, voyons quand Dieu se cache. J'ai dit que certaines personnes avaient un ressenti très fort de la présence de Dieu. Mais il arrive, et c'est le cas de grands personnages, entre guillemets, très spirituels, de traverser des temps de sécheresse terribles. Et pendant ce temps, Dieu semble parfaitement absent. Alors nous pouvons imaginer que pour ces gens-là, c'est une expérience douloureuse, tandis que pour d'autres, bah, c'est naturel. Et ce que nous vivons souvent, c'est sans aucun doute le sentiment de la non-réponse de Dieu. Nous avons sur le cœur quelque chose de très lourd. Nous sommes dans une situation difficile. Nous avons demandé à Dieu de nous sortir de là, de résoudre tel problème, d'apporter une solution, une réponse, une guérison, une solution de vie de couple ou d'une situation professionnelle. Et rien n'est venu. Rien. Les choses ont continué leur cours. Tout s'est passé comme si Dieu n'existait pas. Alors, ce que nous ressentons peut être différent selon les personnes. Et nous trouvons cela dans certains psaumes. Le 69, le 88, 142, 143, etc., où nous lisons là tous les sentiments de l'absence de Dieu. Il y a un texte que je trouve très réaliste dans les Lamentations de Jérémie, chapitre 3. Nous allons prendre le temps de le lire. Parce que, personnellement, quand j'avais quelques années de moins qu'aujourd'hui, j'avais moins de connaissances. Et il m'est arrivé parfois d'avoir des relations compliquées avec Dieu. Si j'ai le temps, je vous en dirai un mot. Mais prenons ce texte, Lamentations de Jérémie au chapitre 3, et nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. Lamentations 3, verset 1 à 20. C'est Jérémie qui parle, c'est pas moi je fais que la lecture, hein. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné des pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe, il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de sang, il m'a enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Eh bien, c'est un texte un peu dur, difficile, n'est-ce pas? C'est une présentation très réaliste de ce sentiment, non seulement d'absence de Dieu, mais plus encore, d'une sorte de conviction que Dieu est contre nous, qu'il nous abandonne et même qu'il est le responsable de ce qui nous arrive. Et pour certaines personnes, cela peut avoir des conséquences graves. C'est alors que l'on peut vivre une crise de foi, F-O-I. Surtout si on a toujours cru et si on a eu un enseignement disant que tout ira toujours très bien puisque nous avons Dieu avec nous, nous sommes alors plus que vainqueurs et on chemine toujours sur la crête des montagnes. Bon, mais avant d'accéder à la crête de la montagne, il faut traverser par la vallée. Par exemple, le prophète Élie, il remporte une victoire magnifique. Il trucide tous les prophètes de Baal et d'un seul coup, il craque. Il pète un plomb, Élie. Et là, on est déconcerté de voir sa réaction. Devant les menaces d'une dame, bon, c'est vrai que c'était pas n'importe qui, c'était la reine du pays, notre Élie se met à faire une dépression. Il prend quelques affaires dans un baluchon et puis il file ce camp au désert. Se planque sous un arbuste, croyant que là, personne ne va le voir. Et manque de peau, Dieu vient lui rendre visite et lui dit « Mais Élie, qu'est-ce que tu fabriques là? Qu'est-ce que tu fiches ici, Élie ?» Comme si Dieu ne savait pas. Là, on voit qu'il y a un peu d'humour quand même chez Dieu. Hein. Et Dieu va s'employer à remettre d'aplomb, à remettre sur les rails notre ami Élie, et après cela, il va lui confier une mission. Parce que ça n'était pas fini avec Élie. Donc, il y a bien d'autres aussi personnages qui ont vécu cela. Il y a David, il y a l'apôtre Pierre, et bien d'autres encore. Regardons quelques pistes pour essayer de comprendre pourquoi Dieu se cache. Et avant d'essayer de mieux comprendre ce qui se passe et les raisons éventuelles, lisons encore dans, toujours au chapitre 3 de Lamentation, versets 21 à 33. Donc, nous sommes toujours dans le chapitre 3 de Lamentation et nous reprenons à partir du verset 21 à 33. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Et un peu plus loin, au verset 40, 42, recherchons, il y a certaines traductions qui disent « réfléchissons », ça veut dire la même chose, à nos voies, et sondons-les. Et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles, tu n'as point pardonné. Lorsque le prophète réfléchit, et dans notre chemin, dans notre marche avec le Seigneur, il est important de réfléchir. Il rappelle d'abord l'essentiel. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Et enfin, que ta fidélité est grande. À l'époque de Jérémie, cette parole était vraie. Mais aujourd'hui, elle l'est encore bien plus pour nous qui connaissons la révélation de Dieu en Jésus-Christ et la dimension de son amour et de sa grâce. Maintenant, il faut se poser une question. Dans tout cela, où est ma responsabilité? Quelle est ma responsabilité? Vous connaissez cette expression. On se fabrique le bâton qui va nous frapper. La première question que nous devons nous poser, c'est « N'y suis-je pas pour quelque chose ?» Rappelons-nous dans les Lamentations 3, versets 40 à 44, quand le prophète tente de répondre à sa plainte, il dit aussi ceci « Réfléchissons à nos voies, examinons-les et retournons à l'Éternel, élevons notre cœur, tout comme nos mains vers le Dieu qui est au ciel. » Nous, nous avons commis des transgressions, nous nous sommes révoltés, et toi, tu n'as pas pardonné. Tu t'es au contraire enveloppé dans un nuage pour empêcher la prière de parvenir jusqu'à toi. La première raison éventuelle pour laquelle Dieu se cache, peut-être est-ce nous qui nous sommes éloignés. Nous avons péché, nous nous sommes détournés de Dieu parce que d'autres choses nous attiraient. Et la première question est donc de vérifier cela. Dans le psaume 66, au verset 18, le psalmiste dit « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé jusqu'à ce que je me repente. » Et c'est simplement lorsque nous sommes certains que notre responsabilité n'est pas en cause que nous pouvons chercher d'autres raisons. Et en disant cela, je ne veux pas dire du tout que nous sommes censés être parfaits. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Et il connaît et sait nos limites. Et quand bien même ce serait notre faute, tout ce qu'il attend. Comme le père de la parabole du fils prodigue en Luc 15, c'est que nous revenions à lui. Il est toujours prêt à nous ouvrir les bras, à nous accueillir. Et il ne va pas nous inonder de reproches. Il nous accueille les bras ouverts. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle Dieu peut se cacher, c'est le silence pédagogique à la pédagogie de Dieu. Ce n'est pas la même pédagogie que l'éducation nationale ou autre. Du tout. Ça n'a rien à voir. Même Chantal et moi, nous sommes encore en train d'apprendre. Et j'apprendrai jusqu'au dernier souffle de ma vie. Et c'est pour tout le monde pareil. Dieu va plus loin. Peut-être le Seigneur pense-t-il que son silence est bon pour nous, au point où nous en sommes. Alors nous demandons en fonction de ce que nous savons. Mais le regard de Dieu porte sur les événements, y compris les plus petits qui nous concernent. Parfois nous pensons, « Oh, je vais pas embêter le Seigneur avec un détail pareil. » Non, le Seigneur le sait et le connaît. Il sait d'où viennent tous nos désirs, alors que nous-mêmes, parfois, nous l'ignorons. Et surtout, il connaît tout ce qui arriverait s'il exaucait nos prières. Ce que, bien sûr, nous ignorons, nous. Et combien de catastrophes pourraient arriver si tout se passait comme nous le souhaitons, sans même parler des prières contradictoires. Par exemple, l'agriculteur, lui, prie pour que la pluie vienne. Et en même temps, le responsable des jeunes de l'église prie pour qu'il fasse beau pour aller faire de la pirogue sur l'Allier. Alors, Seigneur, comment tu vas te débrouiller avec ces deux prières? Vous voyez? Donc, nous sommes appelés à aligner peu à peu notre volonté sur la volonté de Dieu. Et c'est tout un apprentissage. Ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts, non, non. Ça va vous demander toute votre vie. 1 Jean 5, verset 15. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Et moi, j'aime bien ce verset-là parce que moi, ce que je retiens, c'est demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Waouh, merci Seigneur. Excusez-moi de temporiser un peu l'enthousiasme. Ces deux versets commencent par quoi? Oh, par un mot tout à fait insignifiant. Par un mot qui est composé de deux lettres, si, 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 c'est-à-dire, c'est une condition. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors vous pouvez demander tout ce que vous voudrez. Faut tout lire. Faut pas lire la fin. C'est pour ces raisons et bien d'autres que le prophète Jérémie reconnaît que l'attente de Dieu est un apprentissage de la sagesse. Au verset Lamentations 3, verset 26-28, il dit ceci, « Il est bon, c'est bon d'attendre en silence et non pas en maugréant le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. » Et se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Alors, cette traversée des déserts est donc une manière de nous faire grandir. Oui, parce que c'est bien cela que le Seigneur veut faire dans notre vie. De nous amener à cette stature, à cette ressemblance de Christ. Le Seigneur prend soin de nous comme d'un tout petit au début de notre vie avec lui. Il veut que nous grandissions et commence à nous aider à affronter la vie véritable comme nous le faisons avec nos enfants. Avec un enfant de 5 ans, on s'y prend de telle manière, mais quand cet enfant a 20 ans, essayez d'agir avec lui comme si vous le considériez toujours comme il a 5 ans. Ben non. Vous avez un adulte devant vous et vous allez vous entendre. Hey, « Eh, dis donc, papa, dis donc, maman, tu sais quel âge j'ai ?»« Ah ben oui, c'est vrai. Ah oui, t'as plus 5 ans. » Non. Bon, ça vous est peut-être pas arrivé, mais nous, parfois, on a considéré qu'on avait toujours des petits alors qu'ils étaient déjà adultes. Ouais. Et Dieu fait pareil avec nous. À moins que nous soyons restés bébés spirituels. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Donc, cette traversée des déserts, des tunnels ou ce que vous voulez, c'est une manière pour nous faire grandir. Il veut que nous grandissions. Il veut que nous affrontions la vie véritable. Alors, rassurez-vous, parce que il ne s'agit pas toujours d'un désert aride, simplement pour nous faire grandir. Il y a un temps où Dieu cesse de nous câliner pour nous aider à prendre nos responsabilités. Et là, il ne va pas répondre à toutes nos demandes. Alors, je vais donner un exemple. Par exemple, votre petit gamin de 5 ans, il va vous réclamer, moi je ne sais pas, un couteau suisse. Vous savez, c'est presque la boîte à outils universelle. Alors, il y a une manière de répondre à cet enfant. Vous n'allez pas lui dire, non, tu ne l'auras jamais. Non, on lui explique que, oui, un jour tu vas l'avoir. Mais pour l'instant, il faut que tu grandisses un petit peu. Puis un jour, papa et maman, ils t'offriront ce couteau suisse. Parce que tu seras capable de le maîtriser et de bien t'en servir. Savez-vous que Dieu fait pareil avec nous? On lui demande quelque chose. Et peut-être que vous avez demandé quelque chose. Et vous attendez encore aujourd'hui, après des mois, des semaines, des années, voire. Alors, rappelez-vous l'histoire du couteau suisse avec le petit gamin de 5 ans. Vous et moi, nous passerons sans aucun doute par des crises, petites ou grandes, mais ces crises nous permettront d'aller plus loin. Elles changeront notre manière de voir les choses. Elles élargiront sans doute notre conception de Dieu et la modifieront en tous les cas. Et le seul moyen de mûrir et de passer d'une foi encore en grande partie seulement intellectuelle à une foi profonde et qui concerne le cœur dans sa totalité. C'est aussi une manière de nous enseigner à marcher par la foi et non par la vue. Mais il peut y avoir d'autres raisons au silence de Dieu. Pour Dieu, c'est peut-être aussi une manière de nous garder d'une conception un peu mécanique de la prière. Par exemple, nous mettons une pièce dans le distributeur, hop, et à l'instant même, on reçoit la canette de coca et on peut se désaltérer. Ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça avec la prière. Rappelons-nous que la prière est un dialogue. Et aussi la rencontre de deux libertés. Nous avons parlé de liberté tout à l'heure. Deux libertés qui se rencontrent, c'est-à-dire la nôtre, à qui il est permis de demander tout ce que notre conscience autorise de souhaiter, et celle de Dieu qui veut notre bien par-dessus tout, et pour cela évitera parfois de nous répondre. Nous savons bien aussi que ce que nous jugeons bon au tout début de notre vie chrétienne pourra plus tard nous sembler impossible à demander parce que nous aurons grandi dans la connaissance de la volonté de Dieu. L'expérience, parfois douloureuse, du manque est aussi la seule manière de vérifier la valeur de notre foi. Et là, il faut se rappeler certains personnages de la Bible, comme le livre de Job. Vous vous rendez compte, cet homme juste, intègre, béni de Dieu, et voilà que le diable pose une question, je dois le dire, tordue, mais attention, pas si stupide. En Job 1, versets 9 à 11, nous lisons « Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni le travail de ses mains, ses troupeaux couvrent le pays, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudira en face. » Cette accusation de Satan était fausse, ici dans ce texte. Mais est-elle toujours fausse? Combien de fois nous, fidèles à Dieu parce que nous espérons bien en tirer un petit avantage? Si ce n'était pas le cas, que ferions-nous? Continuerions-nous ou renoncerions-nous à le servir? Parce qu'il est tellement tentant d'être plus attaché au don qu'au donateur. Vous voyez que nous avons déjà plusieurs raisons qui peuvent expliquer les silences de Dieu. Je voudrais encore en citer une dernière, mais qui n'en est pas vraiment une. C'est l'Ecclésiaste qui dit, Ecclésiaste 5, verset 1, « Dieu est au ciel et nous sommes sur la terre. » Ça, on l'avait constaté. Ne croyons pas que nous allons toujours tout comprendre. Non. La volonté de Dieu restera toujours en grande partie mystérieuse. Pourquoi Dieu permet-il ceci? Pourquoi Dieu permet-il cela? Je vous assure que ma liste des pourquoi, elle est longue. Très longue. Et nous n'en savons rien le plus souvent. Et nos explications sont parfois maladroites, pour ne pas dire complètement à côté de la plaque. Nous ferons toujours face au mystère de Dieu. Nous ne pourrons jamais le mettre dans une boîte. Parfois, nous, êtres humains, nous voudrions créer Dieu à notre propre image, alors que c'est le contraire. C'est lui qui nous a créés à son image. Rappelons-nous que Dieu est aussi le créateur et le soutien de l'univers. Il n'y a rien d'étonnant que ce que le secret de sa volonté nous échappe souvent. Alors, pour résumer certaines raisons des silences de Dieu, et je vous assure que le sujet est loin d'être épuisé, notre éloignement de lui, à l'exemple de David, nous apprendre quelque chose sur lui ou sur nous, nous garder d'une conception mécanique de la prière, vérifier aussi la valeur de notre foi, à l'exemple de Job. Ce dont nous sommes sûrs, certains, c'est qu'il est amour, et que cet amour, c'est sa nature même. Chaque fois que nous nous adressons à lui, il nous écoute. Ça ne veut pas dire qu'il nous répond, comme nous on l'attend, mais il nous écoute. Nous pouvons en être certains. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, il veut notre bien. Et de cela, nous pouvons en être certains, parce que toute la révélation tend vers cela. Et cela se manifeste parfaitement en Jésus. Donc, eh bien oui, nous rencontrerons sur notre route des événements que nous ne comprendrons pas et certaines de nos prières ne seront pas exaucées, oui. En tout cas, pas comme nous le souhaiterions et l'aurions attendu. Et je crois qu'il est important d'en parler, sans tabou, afin de rassurer celles et ceux à qui cela arrive et qui passent par des temps de désert. Alors je dis oui, c'est normal. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous lui fassions confiance. Je répète, confiance. Nous ne faisons pas confiance à Dieu parce que nous saurions qu'il nous exauce toujours. Nous ne sommes pas Jésus qui lui faisait toujours la volonté de son Père. Mais nous avons confiance en lui, parce que nous croyons en son amour qu'il nous a manifesté en Jésus-Christ, mais aussi confiance dans notre quotidien. Nous sommes aussi au bénéfice de sa grâce au quotidien, même si nous n'en sommes pas conscients toujours, mais c'est une réalité. Alors notre vie restera toujours dans une certaine incertitude. C'est le propre de notre condition humaine. Mais ce devrait être une incertitude confiante dans celui qui tient tout dans sa puissante main et qui sait, lui, où il veut nous emmener, même au travers de son silence. Et s'il y a quelque chose, juste quelque chose qu'il faudrait retenir ce matin, rappelons-nous que silence ne veut pas dire absence. Que le Seigneur vous bénisse.